Ce week-end, c'est un week-end un petit peu particulier pour moi. Ce week-end, en ce 22 avril 2022, l'année dernière, j'ai perdu mon grand-père. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas ma thérapie là. Je ne vais pas lancer un gros froid. Ce n'est pas une thérapie. Mais j'ai perdu mon grand-père et mon grand-père était une personne avec qui j'étais super proche, qui était aimé, qui était apprécié de tout le monde. C'était le genre de personne, vous savez, quand il marchait dans la rue et qu'il voyait quelqu'un, il pouvait parler pendant des heures avec cette personne-là, de tout et de rien. Vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez parler avec n'importe qui, de parler n'importe quoi pendant des heures. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'arrive dans une soirée où il y a beaucoup de personnes. La première chose que je fais, c'est que je m'isole dans la cuisine ou je m'isole dans les toilettes. Il y a trop de monde. Moi, je fuis le monde. Lui, il ne fuyait pas le monde. Il allait vers les gens. Et il parlait avec énormément de personnes. Il était apprécié de tous. Et c'est une personne qui m'impressionnait par sa relation avec Dieu. Mon grand-père m'a toujours impressionné par sa foi. Il avait une foi qui était ancré en Jésus. Il avait toujours le sourire sur le visage, il avait toujours la paix sur son visage, il était toujours en paix, il était toujours dans une confiance sereine, peu importe les saisons par lesquelles il passait. Et croyez-moi, il est passé par des saisons de doute, il est passé par des saisons d'épreuve, il est passé par des saisons de souffrance qui étaient intenses. Il a vécu des saisons que j'appelle les saisons d'Habacuc. Et c'est quoi les saisons d'Habacuc ? Saison d'Habacuc, c'est des saisons par lesquelles certains sont passés déjà ce matin. Vous avez déjà vécu ces saisons-là. D'autres sont en train de vivre en ce moment une saison d'Habacuc. Et d'autres, vous ne le savez pas encore, mais vous apprêtez à en vivre des saisons d'Habacuc. Puis, j'entends certaines voix qui sont en train de se demander « Qu'est-ce que ça, un Habacuc ?» La question, ce n'est pas un quoi. La question, c'est plutôt « Qui c'est ça, Habacuc ?» Parce qu'Habacuc, c'est une personne. Et peut-être que ça fait des années que tu lis ta Bible, mais tu ne le sais peut-être pas, ce matin, je vais t'apprendre quelque chose. Habacuc, en fait, il a écrit un livre dans la Bible. Habacuc a écrit un livre dans l'Ancien Testament. Et si tu ne le savais pas, je tiens à te rassurer. Je suis sûr que 90% de la salle ne sait pas quel est le livre avant et quel est le livre après Habacuc. Et on entend le pasteur qui a parlé, Nahum et Sophonie. Est-ce qu'on peut applaudir Daniel, s'il vous plaît ? Ce que vous savez pas, c'est que je lui ai donné les réponses avant. Non, je plaisante. Hein. Nahum et Sophonie. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur qui est véritablement Habacuc. La Bible nous donne peu de détails sur qui est Habacuc. On a tellement peu d'informations sur lui qu'on sait même pas comment s'écrit son prénom. Sans rire, sur cette semaine, alors que j'étudiais, je me suis rendu sur le Top Chrétien et j'ai étudié sur une même page internet, il y a eu trois façons différentes d'écrire Habacuc. Avec deux C, avec deux Q, avec deux K. On ne sait pas comment il s'écrit. Et rien que pour ça, moi j'ai de la compassion pour lui. Moi j'ai eu le droit pour des Florian qui sont terminés par des UNT, des IANT, des AN, on oublie le I parce que ça se prononce Florian, mais ça s'écrit Florent. J'ai le droit à des Flaviens, à des Fabiens, à des William. Priez pour moi, parce qu'apparemment, même pour moi, c'est compliqué. Mon prénom est compliqué. En tout cas, Habacuc, on ne sait pas réellement qui il était. Mais on sait qu'il était un prophète 600 ans avant Jésus. 600 ans avant Jésus, il était prophète en Israël. Et lui, par rapport à tous les autres prophètes, il avait une particularité un peu différente. Les prophètes, à l'époque, parlaient de la part de Dieu au peuple. Mais Habacuc parlait à Dieu de la part du peuple. Et le peuple, à l'époque, le peuple d'Israël, à l'époque, vivait une situation désastreuse d'un point de vue moral, d'un point de vue spirituel. C'était la catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Tout allait mal. Et le livre d'Habacuc est court, il ne fait que trois chapitres. Mais il est dur à lire. Il est dur à lire parce que toute l'ambiance, toute l'atmosphère qu'il y a dans le contexte, c'est lourd, c'est pesant. Et ce matin, laisse-moi te prévenir, ça ne va pas être agréable. On va parler d'Habacuc, ça ne va pas être tout le temps agréable, ça ne va pas tout le temps être le fun ou la joie. Mais accroche-toi. Parce que si Dieu a permis que Habacuc soit dans la Bible, c'est parce qu'il y a des trésors qui sont pour nous. Il y a des trésors ce matin qui sont encore pour nous si Dieu a permis qu'on puisse étudier Habacuc aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et dès le début du chapitre 1, la première phrase que Habacuc dit annonce le ton du reste du livre. Chapitre 1, verset 2. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi ? Tu n'écoutes pas. » Ce n'est pas écrit par mes parents quand j'étais adolescent. C'est Habacuc qui s'écrit à Dieu, là. « Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ?» Si on transpose les questions d'Habacuc à aujourd'hui, je suis sûr que plusieurs se sont déjà posé ces questions, cette vallée. Vous êtes déjà passé par des vallées de pourquoi, cette vallée de pourquoi je comprends pas. Pourquoi est-ce que ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur, semblent mieux réussir que moi? Pourquoi est-ce que c'est mon collègue qui est hypocrite, qui parle dans le dos de tout le monde, qui a cette promotion et pas moi? Pourquoi est-ce que mes enfants que j'ai élevés selon ta parole, pour lesquels je prie tous les jours, font n'importe quoi dans leur vie? Pourquoi est-ce que je tombe malade alors que j'ai une hygiène de vie qui a toujours été irréprochable? Pourquoi on n'arrive pas à avoir d'enfants? Pourquoi est-ce que j'ai toujours de l'anxiété? Pourquoi est-ce que je suis toujours dépendant? Pourquoi est-ce que tu sembles répondre aux autres et pas à moi? Jusqu'à quand, Seigneur, seras-tu silencieux? Et moi, je vais même rajouter, pourquoi est-ce que personne ne sait écrire mon prénom? Chacun ses combats. Le titre de mon message ce matin, le combat de la foi dans la vallée de nos pourquoi. On peut tous s'identifier à Habacuc ce matin. À un moment donné de notre vie, on est tous passés par cette vallée-là. Et ce que j'aime avec Habacuc, c'est qu'il est transparent avec Dieu. Il est honnête avec Dieu. Il ose dire ce qu'il vit et ce qu'il ressent à Dieu. Le gars, il ose apporter sa frustration, son incompréhension à Dieu. Il l'apporte, il la donne, il la vomit à Dieu même. Et Dieu lui répond. Et on aurait pu penser que Dieu allait le punir pour son insolence. On aurait pu penser que Dieu allait l'écraser pour avoir été aussi énervé envers Dieu. Mais Dieu lui répond. Et Dieu lui dit, tu veux une réponse? Ok. Tu risques de pas comprendre par contre. Mais j'imagine tellement Habacuc se dire, enfin, Dieu va me répondre. Enfin, yes, ça va être cool. La délivrance arrive. Et du verset 5 au verset 11, on va pas les lire ce matin, au chapitre 1, Dieu lui dit à Habacuc, tu veux une réponse? Voilà ma réponse. Alors que tu crois que c'est horrible ce qui se passe en ce moment, effectivement, je vois mon peuple qui fait n'importe quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre peuple, le peuple de Babylone. Je vais prendre le peuple de Babylone et je vais l'envoyer sur mon peuple. Un peuple qui est assoiffé de sang, assoiffé de tuer des gens, et je vais l'envoyer sur mon peuple. Ils sont tellement obstinés dans leur péché, obstinés à faire n'importe quoi, que ça prend quelque chose qui va leur faire encore plus mal. Imaginez l'ascenseur émotionnel d'Habacuc. Dieu me répond, ça va être fantastique. Et en réponse, il a « Accroche ta tuque avec ta broche parce que ce qui s'en vient, ça va être bien plus compliqué là. Tu crois que l'été arrive en avril ? Les rires partent d'eux-mêmes. Hein. J'ai même pas besoin de dire la suite. Dans la neige, du verglas, de la pluie ce matin. Ça n'a pas de sens pour Habacuc. Il est encore plus perdu. Habacuc est encore plus bouleversé. Habacuc vit une crise de foi. Sa foi, elle est ébranlée. Et à la fin du chapitre 1, on le voit lutter avec Dieu. Il lutte. Il comprend pas. Il exprime sa frustration, ses questions. Et la question qui se pose pour nous ce matin, c'est que faire dans la vallée de nos pourquoi? Comment réagir quand Dieu ne fait aucun sens? Comment notre foi peut nous aider à passer par ces moments-là? Et c'est dans le chapitre 2 que Habacuc va nous donner un exemple de foi. Un exemple de foi à suivre dans ces saisons-là de nos vies. Et mon premier point ce matin, c'est que la foi d'Habacuc s'est manifestée par son action. Après avoir exprimé sa frustration à la fin du chapitre 1 et ses questions, dès le chapitre 2, Habacuc 2, verset 1, Habacuc déclare « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » Voilà comment Habacuc réagit à ces pourquoi. Comment réagis-tu quand Dieu ne répond pas à tes pourquoi? Quand Dieu ne semble pas agir comme tu l'as prévu? Quand tu es déçu par Dieu? Quand tu es déçu par la réponse de Dieu? Est-ce que tu fais l'autruche? Est-ce que tu fais comme si, bon, pas grave, mes problèmes ne sont pas aussi graves que ça, ça va passer, Dieu est bon, Dieu est grand? Est-ce que tu te rebelles contre Dieu? C'est comme ça, j'arrête de prier, j'arrête de venir à l'église, j'arrête de lire ma Bible, je laisse tomber ma foi. Ici, on voit la réaction d'Habacuc. Il s'attend à Dieu, tout en continuant à servir à la tour. Il ignore pas le problème, comme certains peuvent le faire des fois. Oh, c'est pas grave. Dieu est bon. Dieu va le gérer. Mon couple va mal, bof, pas besoin d'aller voir un thérapeute, là. Ça va aller à un moment donné. Mes finances vont mal, bof, pas besoin d'aller voir un conseiller, ça va aller mieux à un moment donné. Ça va s'arranger tout seul. Habacuc ne réagit pas comme ça. Habacuc ne renie pas non plus sa foi. Il continue à servir en s'attendant à Dieu. Il reste actif, il reste accroché à Dieu. C'est tellement important qu'on le regarde ça, parce que parfois dans nos saisons de souffrance, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand on est déçu de Dieu, on veut tout mettre en pause. On a le réflexe de vouloir fuir, de tout mettre en pause. J'arrête de lire la Bible. Je suis déçu, j'arrête de lire la Bible. J'arrête de prier, à quoi ça sert? J'arrête de venir à l'église. J'arrête de servir à l'église maintenant, ça suffit. Je suis trop fatigué. Je suis trop déçu pour continuer. J'arrête tout. Mais Habacuc va à l'envers de ce réflexe. Non, non, moi je veux continuer. Je continue à faire ce que je dois faire. Je continue à persévérer. Je continue à m'approcher de Dieu. Je continue, je persévère, je mets ma foi en action. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour à un pasteur du nom de John Newton. Il lui a juste écrit en disant « Je n'obtiens rien en priant ». Puis le pasteur lui a juste répondu « T'obtiens rien en priant ? Je peux te garantir que tu n'obtiendras absolument rien en ne priant pas. Si tu n'obtiens rien en essayant chaque jour d'aller au trône de la grâce, je peux absolument t'assurer que tu n'obtiendras rien en restant à l'écart. Il faut persévérer. Il faut persévérer. » Et ce matin, pour quelqu'un, c'est peut-être le moment pour toi aujourd'hui de recommencer à prier, d'oser recommencer à prier, d'oser recommencer à lire la Bible, d'oser recommencer même à venir à l'église, à t'impliquer à l'église, à servir l'église. Oui, tu as des doutes. Oui, tu as été déçu. Oui, tu as encore plein de pourquoi qui sont dans ta tête. Tu vois juste les pourquoi face à toi, mais reste actif. Ne sois pas passif. Parce que tes problèmes ne se résoudront pas si tu restes passif. Il ne se passera rien si tu es passif. Sois actif. Attends activement. Comme Habacuc, il a mis sa foi, sa faible foi, sa foi qui était ébranlée en action. Il n'a pas attendu que ça aille mieux. Il a mis sa foi, il s'est activé afin de pouvoir être à l'écoute. Parce que le poste de garde sur la tour lui donnait la position la plus stratégique pour voir Dieu agir, mais aussi pour entendre Dieu lui répondre. En étant actif, il se mettait à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Dieu peut encore parler. Dieu parle toujours, même ce matin. Dieu peut te parler ce matin. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas le poste sur la tour pour entendre Dieu nous parler. Il nous a laissé sa parole. Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle au travers des lectures que tu peux faire au quotidien. Dieu parle, peut te parler dans tes temps de prière. Dieu peut te parler quand tu viens à l'église, quand tu entends la louange, quand tu entends un message. Dieu peut te parler. Mais souvent, on est fermé. On est tellement déçu qu'on se ferme. Mais Dieu peut te parler. Dieu peut te parler au travers des gens avec qui tu peux servir. Au travers des gens de l'église. Ne t'isole de personne ce matin, parce que Dieu peut utiliser des personnes pour te parler. Et Habacuc attend au bon endroit. le cœur ouvert. Juste le cœur ouvert, il s'attend à Dieu. Il remplit son rôle, il remplit ses fonctions. N'abandonne pas trop vite ce matin. Persévère dans ton écoute. Persévère dans ton service. Mets-toi disponible et disposé à entendre Dieu te parler. Parce qu'à un moment, il va te répondre. À un moment donné, Dieu va te répondre. Et Dieu peut répondre de trois façons différentes. La première façon, ce qui va dire « Je t'entends et je vais te répondre oui. » Je t'entends et je te réponds oui. Et c'est ce qu'on voit à un moment donné dans les évangiles. Il y a une histoire entre avec Jésus, à un moment donné, il marche et puis il y a une femme cananéenne qui vient vers lui. Puis il faut savoir que les Juifs dont faisait partie Jésus et les Cananéens, c'était des ennemis là. Ils ne s'entendaient pas pantoute, ok? C'était genre les Canadiens de Montréal contre Boston, d'accord? Ils ne pouvaient pas se voir. Mais la femme cananéenne vient voir Jésus. Elle le supplie parce que sa fille a des graves problèmes. Elle lui crie, elle crie à l'aide. Mais Jésus ne répond pas et continue à marcher. Et elle, est-ce qu'elle a abandonné? Non. Est-ce qu'elle s'est dit, bof, tout ça c'est du n'importe quoi, je vais arrêter de croire n'importe quoi, ce Jésus-là finalement? Non. Elle a persévéré. Elle a continué à crier à l'aide, elle a continué à être active. Et à un moment donné, on voit une discussion qui prend place entre elle et Jésus. Et en Matthieu 15, Jésus commence à lui dire « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Quand tu te mets à l'écoute de Dieu, tu vas te rendre compte que parfois, il te dit « Oui, je te réponds. Je te réponds favorablement. » Et parfois, il va te répondre non. Parfois, il va te dire non. Mais Seigneur, c'est une bonne prière. Ma prière est justifiée. Ouais. Mais non. C'est pas ça. Et c'est ce qu'on voit aussi avec Paul. L'apôtre Paul, c'est quand même la personne dans le Nouveau Testament qui incarne, j'ai l'impression, le mieux ce que doit être un chrétien. L'apôtre Paul a quand même écrit la moitié du Nouveau Testament. Il s'est fait lapider pour Jésus. Il s'est fait persécuter, enfermé en prison pour Jésus. Et un jour, on suppose qu'il avait une maladie, on suppose qu'il avait un problème de santé. Et il commence à crier à Jésus, « Hey, guéris-moi, que je puisse être encore plus actif pour toi, guéris-moi. Viens faire quelque chose dans ma vie là, pour que je puisse aller mieux. » C'était légitime. Paul était légitime de demander ça. Mais Dieu lui a répondu, non. Non, parce que ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parfois, Dieu dit non. Même si ça ne fait aucun sens pour nous. Même si c'est dur. Même si ça fait mal sur le coup. Dieu peut dire non. Parce qu'il a quelque chose d'autre prévu pour toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, on a l'impression que Dieu est obligé de nous répondre parce qu'on prie à lui. Mais Dieu n'est pas lié par nos prières. Ce n'est pas le petit génie d'Aladin, hein, Dieu, qui doit répondre à toutes nos prières, à toutes nos demandes. Même les prières qui nous paraissent les plus justes, Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Comme Paul avec ses maladies. Et dans ces moments-là, nous devons avoir la foi que les plans de Dieu sont bien meilleurs que les nôtres. C'est ce que Dieu a déclaré en Ésaïe 55. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voies sont au-dessus de vos voies, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Si Dieu t'a dit non, aie la foi, comme Habacuc, de continuer, d'avoir la foi, de persévérer, d'avancer. Si Dieu t'a dit non, aie la foi que son plan que tu ne connais pas encore, que son plan qui est encore mystérieux pour toi, reste quand même bien meilleur que le tien. Et si Dieu t'a dit non et que tu vis une saison de souffrance, il te dit pas juste non et il t'abandonne. Tu dis pas non, non, puis bon courage avec ça. Psaume 34, verset 19 nous dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Il te dit peut-être non pour une raison que tu ne connais pas, mais il ne te laisse pas tomber pour autant. Il sait que tu es frustré. Il sait que tu peux porter un poids, que tu peux être déçu. Ça peut te faire mal, mais il ne t'abandonne pas pour autant. Il est à tes côtés. Il veut te soutenir. Il veut t'épauler. Il veut te montrer son projet pour toi. Dieu peut répondre oui. Dieu peut répondre non. Mais Dieu peut répondre aussi pas encore. Pas tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait à Habacuc. Et c'est mon deuxième point ce matin, c'est que la foi d'Habacuc se manifeste par son attente. Après s'être positionné sur la tour, en attendant Dieu, Dieu vient voir Habacuc et vient lui dire « Prends une tablette et commence à écrire, parce que je sais que t'es comme tout le monde, t'oublies rapidement ce qu'on peut te dire. Donc prends une tablette, note ce que j'ai à te dire. » Et Dieu dit au verset 3 « En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Attends. 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 Je suis pas pour vous, mais j'aime pas attendre. Mettez-moi quelqu'un qui n'avance pas sur la route, en voiture, devant moi. Puis je peux vous garantir que votre pasteur, il va vous décevoir, là. Même si c'est vous dans la voiture en face et que je vous aime d'amour, à ce moment-là, je ne suis plus votre pasteur. À ce moment-là, je n'ai plus des paroles de vie sur vous. Même toutes les séries qui sortent en ce moment avec un petit épisode par semaine, moi, ça m'en fout. Un jour, quand j'étais petit, on m'a mis un plâtre parce que je m'étais fait une grosse entorse. Pendant 6 semaines, j'avais un plâtre. Puis au milieu des 6 semaines, je suis comme, j'en ai marre, je sais que je suis guéri. J'ai mis le plâtre sous l'eau, j'ai pris un marteau, je l'ai cassé en deux pour assez bouger ma cheville, puis je jouais au soccer et je courais avec mon plâtre. J'aime pas attendre. Et je sens qu'il y en a qui me jugent. Attendre, c'est horrible. Et il y en a dans cette salle, vous êtes dans la salle d'attente. Vous attendez qu'un enfant vienne à Christ. Vous attendez une guérison. Vous attendez peut-être un meilleur emploi. Vous attendez que vos projets se réalisent, que vos rêves se réalisent. Vous êtes dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente. Comme Habacuc. Et qu'est-ce qu'on fait dans une salle d'attente? 3 ans de théologie pour arriver à ces conclusions. On travaille fort, hein. On attend. On attend dans la salle d'attente. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la pièce d'à côté, Dieu est en train d'agir. Ce qu'on ne voit pas, alors qu'on est en train d'attendre dans la salle d'attente, c'est que Dieu, dans la pièce d'à côté, il est en train de faire une œuvre tellement grande dont tu n'as même pas idée. Tu le vois peut-être pas, tu le sens peut-être pas, mais Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de préparer la promesse qu'il a prévue pour toi. Et non seulement il est en train de préparer quelque chose dans la salle à côté, mais en plus, il est avec toi dans cette salle d'attente. Tu n'attends pas seul. Il est à tes côtés. Il ne t'abandonne pas. Alors ce matin, la phrase facile, sois patient. Garde la foi, car au moment fixé, au moment prévu, au moment parfait, Dieu va répondre, Dieu va agir, Dieu va faire son œuvre. Et ce qui est fort ici, c'est que le mot hébreu pour le temps fixé qu'on a lu tout à l'heure, c'est moed. Et moed, ça signifie au temps imparable et parfait de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Et Dieu n'est jamais en avance. Dieu est parfaitement à l'heure, sur son agenda. C'est pas à lui de faire en fonction de nos agendas. C'est pas à lui de faire en fonction de nos plannings, de nos semaines chargées. C'est pas à lui de faire en fonction de nos horaires. C'est à nous d'avoir confiance, d'avoir la foi en son agenda, d'avoir la foi en son plan parfait qui s'accomplira au moment voulu. C'est pour ça que Dieu dit après au verset 4 à Habacuc, le juste vivra par sa foi. Il faut que tu attendes, mais ça prend de la foi pour attendre. Et j'aime ce que Hébreux 11, verset 1 nous dit, nous définit la foi. J'ai pris la version parole de vie. La foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Tu ne vois pas encore la promesse, tu ne vois pas encore ce que Dieu a prévu pour toi, mais il faut que tu aies la foi de croire que ça s'en vient. Qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Dans l'attente, Habacuc a gardé la foi en Dieu. Dans le doute, dans l'incompréhension, au travers de toutes ses actions, il a gardé la foi. Il était ancré dans sa foi en Dieu. Peu importe ce que Dieu faisait ou ne faisait pas. Peu importe si Dieu faisait du sens à ce moment-là ou pas. Peu importe même si ce que Dieu disait était génial ou horrible. Peu importe si ça traîne ou pas, Habacuc était là. Il gardait la foi, même dans la pire saison de sa vie. Habacuc, dans la pire saison de sa vie, il n'avait que des pourquoi, des attends, pourquoi, attends, pourquoi, attends face à lui. Et alors qu'il est face à tout ça, Dieu commence à lui dire, le juste vivra par sa foi. Et face à tout ça, face à ses incompréhensions, à ses frustrations, Habacuc prononce trois mots puissants pour solidifier sa foi. Trois mots qui vont faire une différence. Je comprends rien, mais voilà ma déclaration. Mais le Seigneur. Je comprends rien, je suis frustré. Mais le Seigneur se tient dans son saint temple. Je suis frustré, mais Dieu règne. Je suis déboussolé, il y a tellement de choses qui font aucun sens, mais Dieu règne dans son temple, parce que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Quand tout semble perdre le contrôle dans ma vie, quand mes doutes me font trembler, quand mes yeux voient que le désespoir, quand la situation semble désespérée, mais Dieu est avec moi. Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu règne. Quand tout semble être hors de contrôle, Dieu règne. Même quand une pandémie frappe le monde, même quand une pandémie vient ébranler le monde, lui reste au contrôle, parce qu'il règne. Même quand une nouvelle vient frapper ton monde à toi, ta famille à toi, ton univers à toi, lui, il n'est pas ébranlé par tout ça parce qu'il règne, parce qu'il est Dieu. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Il reste au contrôle. Et c'est ça le socle de la foi d'Habacuc. Je sais, je ne peux rien comprendre peut-être de ce que je vois de mes yeux, mais je sais que Dieu règne. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas une émotion. La foi, c'est croire sans voir que Dieu règne. Et c'est Kevin DeYoung, un théologien, qui a dit que l'aspect le plus important de notre foi n'est pas l'intensité avec laquelle nous croyons, mais la personne en laquelle nous croyons. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas le miracle, mais je crois que Dieu est capable d'accomplir le miracle. Parce que je sais qui il est. Qu'il le fasse ou non, peut-être que je chialerai comme Habacuc, peut-être que je serai désespéré comme Habacuc, mais je garderai la foi. Qu'il réponde à ma prière ou pas, je garderai ma foi. Que sa réponse corresponde à mes attentes ou non, je ne m'éloignerai pas de lui. La foi est un combat. Le seul combat qu'il vaut la peine d'être mené. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il n'a pas écrit « J'ai rempli ma mission, j'ai fondé des centaines d'églises, j'ai amené à Christ des centaines de personnes, j'ai écrit la moitié du Nouveau Testament, c'est bon, mon combat est terminé. » À l'article de la mort, alors qu'il s'apprête à se faire exécuter pour sa foi, Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, je suis allé au bout de ma course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu pour garder ma foi, parce que la foi, c'est, ça vient, il y a plein de choses qui viennent ébranler ma foi, plein de choses sont venues attaquer ma foi, mais j'ai gardé la foi. Quand Dieu faisait du sens ou pas de sens, j'ai gardé la foi. Quand je me faisais persécuter ou non, j'ai gardé la foi. Quand Dieu a répondu ou pas à mes prières, j'ai gardé la foi. John Piper a dit, la foi selon la Bible n'est pas un saut dans l'inconnu. Elle est justifiée et bien fondée. On ne l'appelle pas foi parce qu'elle n'a pas de fondement, mais parce qu'elle implique la confiance. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance qu'il a tout entre ses mains. J'ai confiance qu'il règne. J'ai confiance qu'il peut veiller sur moi. J'ai confiance qu'il entend même mes pourquoi, qu'il entend mes frustrations, qu'il entend mes doutes. Mais j'ai confiance qu'il m'aime. J'ai confiance qu'il est là, qu'il ne m'abandonne pas. Tout peut s'effondrer autour de moi, mais Dieu reste à mes côtés. J'ai confiance en ses projets. J'ai confiance en ses plans. Comment vis-tu ta saison de pourquoi en ce moment? Comment vis-tu ta foi dans ta saison d'Habacuc? Je vous ai parlé de mon papy au début de la réunion. Et papy a vécu des saisons d'Habacuc. Beaucoup de saisons d'Habacuc. Mes grands-parents ont eu 5 enfants. Et leur aîné, mon tonton Bruno, à l'âge de 15 ans, a été diagnostiqué avec une hépatite et un cancer du rein. Et malgré les prières, malgré les bonnes prières, parce que c'était pour une bonne raison, malgré les prières de la famille, de l'église, tonton Bruno est décédé quelques jours avant Noël. Pourquoi, Seigneur? Mon papy, il est passé par là. Et comme toute famille, au moment d'un décès d'un enfant, s'en est suivie une période de dépression, de doute, de douleur, de difficulté, même certains enfants qui se rebellaient. C'était intense, mais papy a gardé la foi. Il a gardé la foi malgré les dizaines d'opérations qu'il a subies toute sa vie. Il a eu une santé tellement difficile qu'il a dû arrêter ses implications à l'église, qu'il a dû même arrêter de travailler. Et à cause de ça, mes grands-parents, ils n'ont jamais roulé sur l'or. Parce que ma grand-mère devait s'occuper des 4 enfants et mon grand-père était tout le temps malade. Et il a vécu les 20 dernières années de sa vie avec un demi-rein. Et malgré ces saisons d'Habacuc-là, papy se levait tous les matins. Il allait en bas dans le salon, se mettait à genoux et priait. Puis après ça, il amenait le café à ma grand-mère dans le lit. Puis il redescendait et il lisait la Bible. Puis quand ma grand-mère le rejoignait, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Et après avoir fini, ils partaient dans le salon à deux et ils se mettaient à genoux pour prier. J'ai vécu des années chez eux et je l'ai vu chaque matin le faire. Chaque matin le faire. Et tout au long de la journée, je l'écoutais, il lisait la Bible, il priait, il écoutait la louange. Écouter des messages. Et le soir, avant de se coucher, les deux, ils se mettaient au bord du lit et ils priaient. Terminer la journée par la prière. Mon papy a combattu le bon combat. Il a gardé la foi malgré les saisons de deuil. Malgré les saisons de doute. Malgré les saisons de maladie. Malgré les saisons de souffrance. Papy a gardé la foi que Dieu lui réponde ou non, parce que papy savait que Dieu règne. Dieu est fidèle. Même quand ses plans ne font aucun sens pour nous, Dieu est fidèle. Et rien n'échappe à son contrôle. Dieu reste Dieu. Dieu reste bon. Dieu reste grand, même si tout ce que tu vis en ce moment ne fait aucun sens. Dieu reste bon. Même si tout ce que tu vis ne fait pas de sens, il faut que tu comprennes ce que Ésaïe a dit, que tes pensées que tes voies, que tes plans, que tes projets, ils sont au ras des pâquerettes par rapport aux plans et aux projets de Dieu, qui sont bien meilleurs que les nôtres. Même si on ne le voit pas, même si on ne comprend pas, même si on ne le réalise pas, même si on n'a aucune idée de quel fait, il faut juste le croire. On ne comprendra jamais les plans de Dieu. Et ce n'est pas notre appel. Notre appel ce matin, gardez la foi. Tu n'es pas censé avoir la réponse à tes pourquoi. Mais garde la foi. Garde la foi. Dieu, il n'existe pas pour nous servir. Nous existons pour le servir lui, pour le glorifier lui. La vie de mon papy, la vie d'Abacuc, la vie de dizaines et de centaines de personnes qui ont gardé la foi, quand on regarde l'ensemble de leur vie, ça a été une vie de service, une vie pour glorifier Dieu, une vie d'exemple, une vie d'impact pour tous ceux qui étaient autour d'eux. Et c'est un rappel pour nous. Un rappel pour nous ce matin que dans nos saisons de pourquoi, gardons la foi. Que Dieu fasse qu'on attende lui ou non, gardons la foi. Restons ancrés en Jésus. Attachés à Jésus. Regardons toujours Jésus. C'est ce que Hébreux 12, après avoir exposé tout ce qu'est la foi, après avoir montré tout ce qu'est la foi, Hébreux enchaîne avec le verset 2 au chapitre 12. Regardons toujours Jésus. Regardons toujours Jésus. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite parce qu'il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. À la croix, Jésus lui aussi a crié « Pourquoi ?» Pourquoi ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quand tu regardes Jésus, tu regardes la croix. Quand tu regardes Jésus et que tu regardes la croix, tu vois que Jésus a subi la souffrance. Il a porté ta peine, il a porté tes incompréhensions, il a souffert le martyre pour toi. Quand tu regardes à Jésus, quand tu regardes à la croix, malgré tes saisons de doute, tu peux voir que oui, des choses horribles arrivent à des bonnes personnes, parce que Jésus, c'était la meilleure personne d'entre nous. Et que sur le coup, peut-être que le plan de Dieu peut sembler être un mystère, mais un jour, tu comprendras. Les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus devait mourir. Puis 3 jours après, ils ont découvert la puissance et la vérité de la résurrection. Jésus est grand. Alors dans ta saison de pourquoi, dans ta saison de doute, qu'il agisse de la façon à laquelle tu t'y attends ou pas, attends-toi à lui. Attends-toi à Dieu. Sers-le. Essaie de faire ton maximum. Garde tes yeux fixés sur la fidélité de Jésus. Garde la foi que peu importe ce qui peut ébranler ta vie, Dieu reste Dieu. Dieu reste au contrôle. Peu importe ce qui arrive. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? J'ai envie de prier pour vous.